VOA Afrique,
le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Et bienvenue à l'édition du jeudi 24 février 2015, à la une ce soir.
Dernière journée de la visite du pape François à Washington.
Le Saint-Père a prononcé un discours historique devant les deux chambres du Congrès avant de rencontrer des centaines de sans-abri dans la capitale fédérale.
Tragédie à la Mecque.
On passait par Mina pour aller à Jamarat pour faire la lapidation des stèles. Et à 200, 300 mètres de Jamarat, il y a eu une bousculade.
Plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort dans cette bousculade lors du Hajj, le plus important rassemblement annuel de musulmans dans le monde.
Au Burkina Faso, les habitants saluent l'échec du coup d'État et le retour des autorités de la transition.
Tout n'est pas complètement revenu à la normale à Ouagadougou, mais la ville recommence à prendre des couleurs.
On aura sur place notre correspondant à Ouaga et rencontre lundi à New York entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Le Kremlin l'a confirmé ce matin.
Dans moins de 10 minutes, l'écho et les sports, mais d'abord le journal.
Le pape François poursuit sa visite à Washington. Après la Maison-Blanche, mercredi, le souverain pontife s'est exprimé ce matin devant le Congrès américain. Alors Nicolas Pineau, vous étiez sur place pour VOA Afrique. Bonsoir.
Bonsoir.
Le pape François était très attendu. Certains parlementaires américains avaient menacé de boycotter ce discours. Finalement, est-ce un succès?
Oui, il y a eu plus de 500 membres du Congrès présents pour écouter son discours. Joe Biden aussi était là, le vice-président américain. Il a été chaleureusement applaudi car le pape a prononcé un discours plutôt consensuel et n'a pas vraiment cherché la polémique. Il a salué la grande démocratie américaine et a fait référence à Abraham Lincoln ou encore Martin Luther King. Le souverain pontife a exhorté les élus américains à mettre la finance, l'économie et la technologie au service de la lutte contre les inégalités.
Such cooperation is a powerful resource.
Une telle coopération est une ressource puissante dans la lutte pour éliminer les nouvelles formes d'esclavage, d'injustice sociale qui peuvent être dépassées seulement au travers de nouvelles politiques et de consensus social.
Le pape François a aussi mis en garde contre les extrémistes de tous bords qui utilisent la religion, une référence directe au groupe État islamique.
Our world is increasingly a place of...
Notre monde est de plus en plus le théâtre de conflits violents, d'atrocités brutales et haineuses, même commises au nom de Dieu et de la religion.
In the name of God and of religion.
Il faut dire aussi que le souverain pontife a réagi à la grave crise migratoire en Europe actuellement.
Oui, il a rappelé qu'il était lui-même descendant de migrants et surtout que les Américains ont pour la plupart des ancêtres qui ne sont pas nés américains. Alors que le débat sur l'immigration clandestine fait rage, ici, en vue de la présidentielle 2016, le pape François a appelé à la compassion.
Que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cette règle nous montre la voie. Il faut traiter les autres avec la même passion et compassion que nous souhaiterons pour nous-mêmes. Donnons aux autres les mêmes possibilités que celles que nous recherchons.
Le souverain pontife a encore demandé l'abolition totale de la peine de mort, alors qu'ici, en Amérique, les exécutions sont encore pratiquées dans de nombreux États.
Recently, my brother bishops here...
Récemment, mes frères évêques ici aux États-Unis ont renouvelé leur appel pour abolir la peine de mort. Non seulement je les soutiens, mais je rappelle qu'une juste punition ne doit jamais exclure la dimension d'espoir et de réhabilitation.
And the goal of réhabilitation.
Rappelons que le pape François s'envole ce soir pour New York. Philadelphie sera plus tard la dernière étape de sa tournée américaine.
Merci Nicolas Pineau.
Au Burkina Faso, au lendemain du rétablissement des autorités de transition, les habitants de la capitale, Ouagadougou, expriment leur joie d'avoir mis en échec le coup d'État du général Gilbert Diendéré. Un état des lieux avec un de nos correspondants à Ouagadougou, Issa Napon.
Tout n'est pas complètement revenu à la normale à Ouagadougou, mais la ville recommence à prendre des couleurs. il y a un peu plus de circulation dans les artères. Depuis ce matin, ce sont de longues files d'attente devant les stations d'essence, mais aussi les guichets de banque. En ce jour de Tabaski, et pour bien de monde, l'achat du bélier ne figurait pas vraiment au programme. Dans le centre-ville, l'on constate des périmètres sécurisés autour de l'état-major général des armées et une présence militaire dans certains quartiers de la capitale. Autre signe de cette pression encore palpable, l'unité d'action syndicale qui a indiqué le maintien du mot d'ordre de grève générale sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à la réduction totale des poursuites. Son président Bassoma Bassier a cependant annoncé une réadaptation de cette grève afin d'assurer le service minimum. Tous guettent aujourd'hui ce qui sortira du tout premier conseil des ministres post-putsch qui a été finalement reporté à demain vendredi et qui va se tenir dans un lieu différent du palais présidentiel de Kossiam où évidemment se trouve le camp Nabakom 2, le quartier général du régiment de sécurité présidentielle. Issa Napon, à Ouagadougou, VOA Afrique.
Violence dans le centre du Nigeria. Des présumés voleurs de bétail peuls ont tué 4 personnes mardi soir, dont un policier et un chef de village à Alawa dans l'état du Niger. C'est ce qu'a fait savoir la police aujourd'hui à l'AFP. Éleveurs nomades et agriculteurs s'affrontent régulièrement dans cette partie du Nigeria, à cheval entre le sud majoritairement chrétien et le nord musulman.
Le Rwanda a accusé de détenir illégalement ses citoyens jugés indésirables. Human Rights Watch affirme que les sans-abri, les mendiants et les vendeurs à la sauvette sont arrêtés puis enfermés dans ce que le régime qualifie de centre de réhabilitation. Pour l'Organisation de défense des droits de l'homme, il s'agit en réalité d'une prison non officielle dans laquelle les plus vulnérables sont détenus. Human Rights Watch demande donc leur fermeture.
La République démocratique du Congo, 50 casques bleus sud-africains de la MONUSCO, mission de l'ONU sur place, vont être rapatriés. Ils auraient commis des fautes disciplinaires, d'après l'armée sud-africaine, citée par l'agence France-Presse.
Présidentielle ougandaise, la coalition de l'opposition n'a pas réussi à s'entendre sur un candidat unique pour affronter le président sortant Yoweri Museveni en 2016. Du coup, les deux principaux aspirants se présenteront. Il s'agit de Kizza Besigye, opposant historique et dirigeant du Forum pour le changement démocratique, et Amama Mbabazi, premier ministre de M. Museveni jusqu'en 2014.
Et la CPI a dévoilé plus de 60 nouvelles accusations de crimes de guerre à l'encontre de Dominic Ongwen, l'un des principaux chefs ougandais de la sanguinaire rébellion de la LRA.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Arabie, la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, appelée Tabaski en Afrique de l'Ouest, a été endeuillée par une gigantesque bousculade. Au moins 717 personnes sont mortes et plus de 800 blessés dans ce mouvement de foule à Mina, près de la Mecque. Le point avec Koïta Makalou, envoyé de la radio Al-Bayan à la Mecque.
La cause, c'est la foule. On peut estimer à plus d'un million de pèlerins qui se dirigeaient vers la Jamarat, qui est dans le pèlerinage musulman, le site où les pèlerins vont lapider, qui est représenté par 3 stèles. Et aujourd'hui, 10e jour du mois de pèlerinage, les pèlerins devaient s'orienter vers ce stèle, qui est le plus grand, pour lapider 7 cailloux, qui est représenté bien entendu par le Satan. Alors, chemin faisant, il y a eu la bousculade entre les pèlerins, ce qui a entraîné malheureusement la mort de ces 717 pour le moment, ici à Mina.
Koïta Makalou. Au Yémen, un attentat revendiqué par le groupe État islamique a fait 25 morts et des dizaines de blessés à Sanaa, la capitale. La cible était une mosquée remplie de fidèles chiites. Précision Lucie Lamont.
L'attaque a visé la mosquée Balili de Sanaa, fréquentée par des chiites houthis. À l'aube, une bombe a explosé pendant la prière de la fête du sacrifice. L'explosion a provoqué la panique parmi les fidèles qui se sont rués vers la sortie où un kamikaze s'est fait sauter. Le responsable de la sécurité de la mosquée a expliqué que les auteurs de l'attentat ont introduit 3 charges explosives dans le bâtiment. Selon des sources médicales, le bilan total est de 25 morts. 20 fidèles sont décédés sur place et 5 en arrivant à l'hôpital. Les blessés se comptent par dizaines. L'État islamique a revendiqué l'attentat dans un communiqué diffusé par des sites djihadistes.
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Barack Obama vont se rencontrer à New York lundi, a annoncé aujourd'hui le porte-parole du Kremlin. Dimitri Peskov a précisé que ce tête-à-tête aura lieu après un entretien entre le dirigeant russe et le premier ministre japonais Shinzo Abe en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.
Au lendemain de la conclusion de l'accord sur la répartition de 120 000 migrants, les 28 pays membres de l'Union européenne cherchent à mieux sécuriser leurs propres frontières. La Hongrie a annoncé aujourd'hui avoir commencé à poser des barbelés à sa frontière avec la Slovénie, un pays appartenant aussi à l'espace Schengen, après l'avoir fait à ses frontières serbes et croates. Budapest entend aussi poser des barbelés le long d'une partie de sa frontière roumaine, indique l'AFP.
Et vers la fin du plus long conflit d'Amérique latine, le président colombien Juan Manuel Santos et le chef de la guérilla des FARC, Timoleon Jiménez, alias Timochenko, ont signé un accord historique à La Havane. Cette entente négociée par Cuba et la Norvège ouvre la voie à un accord final dans les 6 prochains mois. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Au Zimbabwe, les coupures d'eau courante paralysent fréquemment le pays à cause des infrastructures vieillissantes. Ces derniers jours, la plupart des villes ont connu des coupures d'eau courante pouvant parfois durer 24 heures. Conséquence, la croissance est très affectée. 1,5% au lieu des 3,2% annoncés. Toujours au Zimbabwe, quelques 300 000 hectares de récolte sur 2 millions ont été perdus à cause de la sécheresse. Et selon le Programme alimentaire mondial PAM, au moins 1,5 million de Zimbabwéens ont besoin d'aide alimentaire. Le Malawi, la Namibie et le Botswana sont également touchés par la sécheresse. Le PAM affirme que dans cette région d'Afrique australe, plus de 27 millions de personnes devraient dépendre de l'aide alimentaire d'ici la fin de l'année. L'Afrique du Sud, grenier de la région, est aussi durement frappée. Elle a enregistré une chute de 31% de sa production de maïs. C'est la pire récolte depuis 2007, selon le ministère sud-africain de l'Agriculture, qui va importer 600 000 tonnes de maïs pour faire face à la demande et honorer ses engagements à l'étranger.
La Minute Éco, merci Eric.
Bagassi Koura nous rejoint maintenant en studio pour la page sport. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Parlons tout d'abord du tout-puissant Mazembe. Deux joueurs clés de l'équipe se remettent de leurs blessures.
Oui, ils étaient sortis sur blessure la semaine dernière en championnat. Ce sont les défenseurs Merveille Bopé et Joël Kimouaki qui ont donc repris l'entraînement. Et selon Foot Africa, ils sont jugés aptes pour affronter les Soudanais d'Almerek ce week-end en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Le Malawi est en préparation, Bagassi, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le mois prochain.
Oui, les Flames ont entamé au centre technique Chimwebe à Blantyre la préparation pour le match du 7 octobre contre la Tanzanie à Dar es Salaam. Le match retour aura lieu 4 jours plus tard au stade Kamuzu à Blantyre. Le sélectionneur Ernest Mtawali a convoqué 25 joueurs sur la route de la Tanzanie. Les Flames pourraient disputer un match amical soit contre le Kenya, soit contre l'Ouganda. Le vainqueur chérubin de Malawi-Tanzanie rencontrera les Fenecs d'Algérie.
Ce ne sera pas un match facile. Tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs.
Oui, la FIFA a procédé ce mercredi au tirage de cette compétition qui aura lieu en décembre prochain au Japon. Le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF entrera en lice contre Auckland ou le vainqueur de la J-League. Le FC Barcelone, tenant de la Ligue des champions, affrontera le vainqueur du match entre les Mexicains d'América, le futur champion d'Asie en demi-finale.
Bien sûr, victoire FC Barcelone. C'est mon pronostic, bien sûr. FIFA, la justice suisse. On verra bien. La justice suisse s'intéresse au courrier électronique de Jérôme Valque.
Oui, Jérôme Valque, c'est le numéro 2 de la FIFA, relevé de ses fonctions après des accusations de revente de billets de match au marché noir. Qui ont été relayées donc par la presse, surtout allemande, sur la base de ces fameux mails. Selon l'AFP, ce jeudi, le bureau du procureur général suisse a exigé de la FIFA d'avoir accès à tous les comptes de courrier électronique de Jérôme Valque, dont les courriers de Chérubin, bien sûr. La FIFA a assuré dans la matinée être déterminée à collaborer avec les autorités. Ces mails sont la pièce centrale des accusations de revente des billets au marché noir qui pèsent sur M. Valque, relevé de ses fonctions la semaine dernière.
Qu'est-ce que j'aurais pu bien dire à M. Valque?
Peut-être faire passer Haïti, 3-0 en faveur de l'Haïti.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin, Gaby Dorcy et Morgane Guerriec en votre compagnie, place au dossier du jour. On commence à Washington, Morgane.
Oui, pour parler de la visite du pape François.
Une visite qu'a suivie jusqu'à présent avec beaucoup d'attention notre collaborateur Idrissa Seloudia. Idrissa, Nicolas Pino nous a déjà parlé de ce discours historique du pape François au Congrès et des autres étapes de sa visite aujourd'hui dans la capitale fédérale américaine. Mais qu'en est-il des réactions jusqu'à présent?
Oh, il faut dire que le pape, en bon jésuite, a essayé de donner à tout un chacun ce qu'il voulait bien entendre, n'est-ce pas, sans se faire d'ennemis. C'est pas son style. Alors donc, on observait très bien qui applaudissait, à quel moment ils applaudissaient ces congressmen ou sénateurs ou députés ou tout simplement l'auditoire. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a vu que, par exemple, quand il dénonçait le capitalisme sauvage, quand il défendait les laissés pour compte, les damnés de la terre, quand il a prononcé ou lancé son appel pour l'abolition de la peine de mort, quand il a exprimé sa compassion pour tout le monde, pour les pauvres, et il a parlé de la réalité du réchauffement de la terre et de l'immigration. Alors en ce moment-là, on a vu les progressistes côté démocrate qui applaudissaient à tout casser.
Et les conservateurs qui ne le faisaient pas.
Qui ne le faisaient pas et qui étaient surtout quand il s'est agi du climat.
En d'autres termes, ces réactions dépendaient des réalités politiques au Congrès.
Exactement. Et naturellement, les républicains ou les conservateurs ont applaudi quand il a défendu la vie de façon générale, en parlant naturellement du fœtus, en fait, pour dire qu'il condamnait l'avortement. Alors, quand il a parlé de ça, les gens, effectivement, du côté républicain, ont réagi positivement. Et la même chose aussi quand il a parlé du mariage traditionnel.
Et comment les gens ont-ils réagi, Idrissa Seloudia, à l'homme François?
Bah écoutez, le pape a ce charisme, il faut le dire. Il a une façon de parler aux gens et de leur montrer qu'il était là pour eux surtout, pas pour un système, pas pour une forme rigide du catholicisme, et qu'il était le curé qui parlait à l'homme, tout simplement, à l'être humain, et qui essayait de voir comment défendre et de venir en aide à ceux qui souffraient.
Qu'on soit catholique ou non, on ne peut s'empêcher d'apprécier.
Et je suis bien placé pour le dire.
Merci. Idrissa Seloudia.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la visite historique du pape François aux États-Unis. Un voyage rempli de symboles et de défis dans un pays où la population catholique est en baisse et marquée par les excès du capitalisme et les injustices sociales. Quel doit être, selon vous, le message du pape aux Américains? Est-ce l'occasion également d'avoir une pensée spéciale pour l'Afrique avant son voyage en novembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
La fin du putsch a sonné hier au Burkina Faso. Au lendemain du rétablissement des autorités de transition et de la mise en échec du coup d'État du général Gilbert Diendéré, on est définitivement tourné vers un report des élections. Le Premier ministre, Isaac Zida, a d'ores et déjà parlé d'un délai de plusieurs semaines. Mais alors, quel serait un calendrier crédible? Réponse avec l'analyste politique et économique Gilles Yabi, au micro de Tatiana Mousseau.
Quelques semaines devraient pouvoir suffire à créer les conditions pour cette élection. Je crois qu'à nouveau, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la préparation technique et de ce qui est de l'ordre du contexte dans lequel les élections à prévu peuvent se tenir. Et je crois que les acteurs burkinabés à nouveau ont montré jusque-là une grande capacité de dialogue et de résolution de leurs propres problèmes. Et je crois que s'ils ont le soutien non ambigu des acteurs régionaux internationaux, ils auront ont la capacité d'organiser des élections assez rapidement.
Crisis Group s'était positionné et d'autres observateurs également, disant qu'il fallait peut-être relancer l'inclusion des membres de l'ancien parti de Blaise Compaoré, hormis forcément ce coup d'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut relancer cette discussion d'après vous?
Au Burkina Faso, les acteurs de la transition ont été très conciliants et on n'a pas exclu le CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. On les a autorisés à présenter des candidats. On a simplement introduit dans le code électoral une disposition qui interdisait à ceux qui avaient pris position clairement pour un projet de révision constitutionnelle. Je crois qu'ils auraient pu faire un choix d'inclusion, il n'y aurait pas eu de problème, mais ils ont fait un choix inverse et je pense qu'il faut respecter des organes de transition qui décident de traduire dans un code électoral le message d'une révolution.
Quel avenir pour un profil comme celui du général Diendéré? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser à une amnestie ou est-ce qu'il a été trop loin?
Mais je pense que la discussion sur l'amnestie au moment même où la crise n'était pas réglée, alors qu'il y a au moins 10 morts à nouveau liés directement à ce coup d'État, je trouve que cette discussion était déplacée et assez indécente. Le général Diendéré est quelqu'un tout de même que les Burkinabés connaissent bien. Il a été impliqué dans tous les épisodes les plus sombres du régime de Blaise Compaoré. Et je crois que c'est tendance aussi à personnaliser et à penser que parce qu'il a été un pilier du système de sécurité au Burkina Faso, il serait absolument incontournable, etc. Je crois que cela conduit à ne pas respecter les institutions. Je crois que dans le cas du général Diendéré, il est allé très loin, il est allé trop loin. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité de donner un symbole fort qui est important pour le Burkina, mais pour l'ensemble de la région. On ne peut pas tout accepter, on ne peut pas, après un tel coup de force, tout de suite parler d'amnestie.
Gilles Yabi, initiateur du WATI, un think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
On met le cap sur le Burundi. Quel avenir pour un éventuel processus de dialogue? Certains observateurs pensent que le président Pierre Nkurunziza ne négociera jamais avec la coalition anti-troisième mandat tant que la force sera de son côté. C'est par exemple l'analyse de l'ancien représentant au Burundi du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Ismaël Diallo.
Tout le monde veut cela, mais est-ce que c'est une perte de temps? Pour le pouvoir, apparemment oui, puisque le pouvoir actuellement à Bujumbura dit qu'il ne négociera pas avec ceux qui se sont élevés contre lui, ont été comme des insurgés. Alors tant que le pouvoir estimera que la force est de son côté, il ne négociera pas, il ne discutera pas. Il faudra malheureusement attendre que le rapport de force change de camp pour qu'il soit contraint et forcé à négocier. Mais qu'est-ce que l'extérieur peut faire de plus rapide et de plus déterminant? C'est difficile à dire lorsque une intervention directe n'est pas à l'ordre du jour.
Et quels sont les risques du statu quo?
Les risques du statu quo, c'est hélas une détérioration accumulée de la situation là-bas, une souffrance accrue des personnes, et surtout les personnes démunies et les personnes à faible revenu, hélas. Et le ralentissement et la détérioration de la qualité des services sociaux, tout cela. Et cela ne contribuera pas à encourager la convivialité entre les Burundais et n'encouragera pas non plus à s'asseoir à une table de négociation. Il faudrait que le Saint-Esprit vienne visiter le pouvoir burundais pour qu'il accepte de négocier. Mais cela ne semble pas, peut-être que lui-même a déserté le camp du pouvoir à Bujumbura, hélas. Alors il faudrait s'attendre à des jours difficiles tant que le pouvoir s'entêtera à vouloir gouverner par la force et seulement par la force.
Quelle autre marge de manœuvre pour empêcher le pire des pires?
C'est difficile à dire. Encore une fois, en dehors d'une intervention extérieure, il faudrait hélas que le peuple insurgé soit plus déterminant et il faudrait aussi que le pouvoir ait de moins en moins de puissance de feu. Il faudrait que certaines forces de sécurité et de l'ordre refusent de suivre bêtement et aveuglément le pouvoir, comme cela vient de se passer chez nous au Burkina.
Ismaël Diallo, joint à Ouagadougou par Eric Manirakiza.
Et ce jeudi est un grand jour pour les musulmans du monde entier. C'est la fête de l'Aïd al-Adha. Cette solennité religieuse de l'islam rappelle le sacrifice avorté du fils d'Ibrahim, Ismaël, à son Dieu, selon l'islam. Mais pourquoi cette fête, appelée aussi fête du mouton, revêt-elle autant d'importance pour les musulmans? Roger Kalala a posé la question à l'imam Abou Bakar Keïta.
Cette fête, c'est très très important pour tous les musulmans, parce que quand le prophète est parti à Médine, il y avait 2 jours, les hommes de Médine en France, et 2 jours pour faire leur fête là-dessus. Bon, il y a beaucoup d'importance là-dessus, la fraternité entre les musulmans, l'unité des musulmans. Bon, il y a des gens, ceux qui ont la possibilité, ils vont égorger les bœufs, les moutons, pour sacrifier et remercier le bon Dieu.
Pourquoi on doit égorger le mouton?
Oui, bon, parce que c'était sunna des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut, lui. Parce que c'est venant directement quand Ibrahim voulait égorger son fils Ismaël, Dieu il a donné à Ibrahim un bœuf pour changer directement. Bon, c'est un bel endroit directement. Le prophète a su le même chemin, puisque les musulmans directement, quand il y a des fêtes, on doit égorger du mouton pour s'approcher au bon Dieu.
C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi la fête du mouton?
Oui, la fête du mouton, oui, oui. Mais on peut avoir, bon, bon, dans les religions, tu peux avoir des bœufs, des chameaux. Bon, ainsi, il y a 4 nations avec les chèvres, oui, oui. Tu peux, c'est que tu as la possibilité, mais le prophète a égorgé plusieurs fois les moutons. C'est à cause de ça qu'on appelle la fête des moutons.
Alors, vous savez, Amina, tout près de la Mecque, on compte des centaines de morts le jour de l'Aïd. Que pensez-vous de ce drame?
Oui. Bon, vraiment, c'est très, très, on est très, très déçu. Mais ce que Dieu a proposé, on doit l'accepter. Donc, on demande aux autorités de l'Arabie Saoudite de prendre beaucoup de mesures pour la sécurité des gens de Proménage et leur bien, Inch'Allah.
C'était l'imam Abou Bakar Keïta, joint à Bamako.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cette édition touche à sa fin. On remercie Lionel Gaïma qui a dirigé la mise en onde de ce soir avec l'assistance de notre ami Curtis Bynum. Thank you Curtis. À la console, présentation Morgane Guiriac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.